Однажды дед говорил мне, когда светало вдали, мы с ним у дверей стояли, и телеги мимо ползли. Видишь ли эти стены, за ними мы все живем, и если их не разрушим, то даже вот здесь гнием. Давай разрушим эту тюрьму, здесь этих стен стоять не должно. Так пусть они рухнут, 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 обветшавшие давно. И если ты надавишь плечом, и если мы надавим вдвоем, то стены рухнут, 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 и свободно мы вздохнем. Руки мои в морщинах, с тех пор прошло много лет, и сил все меньше и меньше, а стенам износу нет. Я знаю, они гнилые, но сложно их одолеть, когда не хватает силы, и я прошу тебя спеть. Давай разрушим эту тюрьму, здесь этих стен стоять не должно. Так пусть они рухнут, 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 обветшавшие давно. И если ты надавишь плечом, и если мы надавим вдвоем, то стены рухнут, 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 и свободно мы вздохнем. Деда давно не слышно, злой ветер его унес. Но мы с ним стоим все там же, под тот же грохот колес. И когда кто-то проходит мимо, я стараюсь погромче петь ту песню, которую спел он, прежде чем умереть. Давай разрушим эту тюрьму, здесь этих стен стоять не должно. Так пусть они рухнут, 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 обветшавшие давно. И если ты надавишь плечом, и если мы надавим вдвоем, то стены рухнут, 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 и свободно мы вздохнем. Надавишь плечом, и если мы надавим вдвоем, то стены рухнут, 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 и свободно мы вздохнем.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, une émission spéciale avec deux représentants du comité de soutien à Azat, on va dire qui il est. Et bien sûr, tout le monde aura reconnu cette chanson extrêmement célèbre dans le mouvement libertaire, la chanson de Loudiatch Lestak, qui pour le coup était en russe. Alors peut-être que l'une ou l'autre pourrait nous dire pourquoi cette chanson comme générique sur le soutien à Azat.
Alors, donc, cette chanson a été adaptée en russe pour la première fois en 2020 par un groupe russe qui s'appelle Arkady Kots, qui est un groupe antifasciste. Et cette chanson, ils l'ont faite au moment des très grands mouvements de contestation en Biélorussie en 2020. Et c'est devenu l'hymne de ce mouvement contestataire. Donc c'est pour les anarchistes et tous les antifascistes russes.
C'est et biélorusses.
Et biélorusses, bien sûr. C'est une musique extrêmement représentative de ce mouvement qui se poursuit en Russie, en Biélorussie, de lutte contre, contre la dictature en place. Donc c'est une chanson très importante dans le mouvement contestataire anarchiste.
Voilà. Et donc au-delà de ces chansons-là, on illustrera toute cette émission avec des chansons russes et anarchistes, et en particulier celle que nous a envoyée Elena. Alors peut-être qu'on peut dire un petit mot sur Elena quand même.
Oui, et Elena.
Donc c'est Alexandra qui parle là.
Oui, bonjour. Donc Elena est la femme d'Azat Miftakhov. Quand Azat a été arrêtée, elle était sa camarade, aussi anarchiste, et donc elle lui a soutenu pendant tous les procès. Et donc j'ai fait la connaissance à la salle de cours. J'ai vu Elena qui a soutenu Azat, j'ai vu Azat lui-même, c'était à Balashikha, pas loin de Moscou, premier procès hyper surréaliste parce que Azat a été... On a essayé de lui charger de fait qu'il a fait une bombe, ce qui était absolument absurde et surréaliste. Et comme ça, j'ai fait connaissance avec les deux. L'un était derrière les barrières et l'autre a soutenu son camarade. Et puis, après une année et demie, j'imagine, peut-être après 2 années, ils se sont mariés dans la prison. Et Elena continue toujours de soutenir son mari maintenant.
Voilà, très bien. Alors, avant de rentrer sur le cœur de l'émission avec qui est Azat, que lui reproche-t-on, peut-être présenter un petit peu ce comité de soutien, quoi.
Alors, ce comité de soutien, en fait, nous, on l'a constitué en 2023, un an après l'invasion de l'Ukraine, parce que nous étions des Français en contact avec plusieurs Russes qui nous parlaient de toutes les répressions qu'il y avait en Russie, de toutes les personnes qui s'opposaient à la guerre. Et c'est par exemple le cas d'Alexandra, donc, qui est russe, qui est avec nous dans l'émission et qui aujourd'hui est exilée en France à cause du fait qu'elle s'est exprimée contre cette guerre d'invasion. On ne parle pas assez du fait que beaucoup de Russes sont opposés à cette guerre. Et donc nous cherchions à nous lier à tous ces Russes opposés à la guerre. Et ce sont tous ces Russes qui nous ont parlé d'Azat, qui est devenu pour nous, en France, une cause emblématique de l'opposition à un régime dictatorial, impérialiste. Et donc, on a constitué un comité pour le défendre, parce que pour nous, Azat, c'est un cas, une cause. Azat, c'est le symbole de la résistance à l'oppression.
Oui. Et qui compose ce comité, à part vous deux, Alexandra et Marie-Laetitia?
En fait, ce comité, il est composé principalement de Français et de Russes. On a un groupe, on appelle ça notre bureau, on se réunit très régulièrement et on fait toujours un état de la situation d'Azat et de toutes les nouvelles actions qu'on peut faire par rapport à la situation actuelle pour faire connaître sa cause et pour œuvrer à sa libération. Donc on organise des événements, etc.
On a idée du nombre de prisonniers politiques qu'il y a en Russie ?
De nombre ?
Oui.
Le nombre, oui.
Ah oui, c'est une question très intéressante parce que, comme toujours avec les chiffres, ça dépend comment tu vas compter. Donc, Mémorial va te donner...
Mémorial, c'est une association de résistance, hein, c'est ça, hein?
Exactement, oui. Donc, une association...
Interdite, d'ailleurs, aussi.
Interdite et qui a commencé comme une association des historiens et des historiennes qui ont essayé de garder le mémoire de terrorisme stalinien, de terror de Staline. Donc, c'était au début une association de mémoire. Et donc, quand tu dis mémorial, ça donne l'idée. Mais puis, ils ont décidé que, en fait, les gens qui sont vivants ont aussi besoin de l'aide. Et c'est pas que les morts qui ont besoin d'être mémorisés, mais les vivants. Et donc, maintenant, c'est aussi l'association de défense des droits de l'homme. Et donc, ils donnent le chiffre à 1 500, donc 1500, voilà. Mais ce sont les cas, disons, purs, qu'on peut vraiment classifier comme quelque chose à prisonnier politique. Bah, si tu changes la définition à persécution de motifs politiques, le chiffre va devenir 12 000.
Ah oui.
Voilà.
De toute façon, dans la tradition anarchiste en France, on ne voulait pas faire la différence entre les prisonniers politiques et les prisonniers de droit commun, parce qu'on considère que les prisonniers de droit commun sont d'une certaine manière des prisonniers politiques aussi, dans la mesure où le système les réprime, quoi. Voilà, mais enfin bon.
Et juste encore, je voudrais ajouter qu'il y a au moins 16 000 Ukrainiens civils, donc pas non combattants, qui sont dans les prisons russes. Au moins 16, peut-être 30 000, donc de 16 à 30 000, les estimations sont très variées, des Ukrainiens civils qui sont aussi dans les prisons russes maintenant.
Parce qu'ils sont opposés au régime de Poutine.
Parce qu'ils étaient capturés de manière très arbitraire dans les territoires qui ont été occupés.
Ah oui.
Peuvent être opposants, ils peuvent être les gens qui étaient estimés comme quelqu'un qui pourrait être opposant.
Ouais. J'imagine qu'il y a quelques déserteurs aussi dans ces prisons russes.
Alors, il y a beaucoup de déserteurs, en fait. Solidarité Free Azad, donc notre comité, nous travaillons de façon extrêmement rapprochée avec une association de déserteurs russes qui s'est constituée lorsque certains d'entre eux ont réussi à venir jusqu'en France. Et en France, ils ont constitué une association et ils aident à la désertion et ils ont tout un nombre de chiffres. Donc, il y a énormément de déserteurs, énormément en fait. Et dans les prisons russes, c'est très dur de connaître le nombre parce qu'en fait, c'est impossible d'aller calculer qui, à un moment, a essayé de fuir la mobilisation qui est obligatoire. Mmh. Hein, Poutine a fait une mobilisation obligatoire et s'est retrouvé pris et emmené quelque part en prison. On n'arrive pas à avoir les chiffres. Mais il y a beaucoup de déserteurs dans les prisons russes, oui.
Donc tu écoutes.
Вперед! Слава Богу! За свой народ! Пусть много или мало, ты знаешь, что враги не правы. Ведь так командовал генерал, в бой тебя послал!
Radio Libertaire 89.4, une émission spéciale en soutien à Azad. Avant de parler d'Azad, peut-être nous dire que disait cette chanson. Hein, chanson anarchiste, semble-t-il, mais au-delà.
Oh bon, c'était une expérience première pour moi, comme pour vous. il parle de guerre. En fait, la chanson parle de guerre et de droit de vivre, de droit de mourir et de droit de décider qu'est-ce que tu vas faire. Donc, à mon avis, c'est une chanson anti-militariste. Donc, c'est remarquable qu'on vient de parler des déserteurs et tout de suite, une chanson comme ça qui parle que chacun a un droit de décider s'il veut vraiment aller ou pas à la guerre. Ce que l'État ne nous permet pas, c'est la décision.
Merci, Alexandra. Donc alors, on va revenir. Qui est Azat, alors ? C'est un jeune homme, puisque...
Alors, oui, Azat, il a 26 ans quand il est arrêté, donc c'est un militant.
Il a été arrêté quand ?
Le 1er février 2019. À ce moment-là, il a 26 ans.
Ça fait déjà 6 ans qu'il est incarcéré.
C'est ça, plus que 6 ans. Ouais. Et au moment où il est arrêté, il est, donc c'est un militant anarchiste, et il est en train de terminer son doctorat de mathématiques dans la plus grande université de Moscou, enfin de Russie, qui s'appelle le MGU, qui est à Moscou. Université où Alexandra, qui est à côté de moi, a fait ses études de sociologie. Université où moi-même j'ai travaillé il y a 20 ans. Voilà. Et donc, il s'apprête, il est à 15 jours de sa soutenance de thèse. Et là, il reçoit un message d'intimidation dont Alexandra, en fait, entend parler à ce moment-là. C'est-à-dire que les services russes, donc je préfère ne pas les nommer, en fait, les services russes mettent sur les réseaux sociaux le passeport d'Azat. Et ça, chez les Russes, enfin, dans le système étatique russe, c'est le signe que Azat va être arrêté.
Ah oui.
Azat est paniqué et il va voir à ce moment-là une personne que Alexandra connaît très bien et qui, à ce moment-là, dirige un syndicat dans l'université du MGU. Et puis, cette personne n'a même pas le temps de défendre Azat, que Azat se trouve arrêté. Et il est arrêté, il n'y a aucun motif, en fait, d'inculpation. Et pendant 2 ans, il le garde en prison et il cherche des motifs. Donc, ils interrogent des gens, ils les torturent. Il y a plusieurs anarchistes qui ont été arrêtés et torturés pour... Ils devaient juste donner le nom d'Azat et signer des documents avec Azat. Voilà. Et au final, il est condamné en 2021, donc 2 ans après son arrestation. Il est condamné sur un motif intégralement fabriqué. Et il n'est plus jamais sorti de prison depuis.
Pourquoi Azat ? Parce qu'il est brillantissime en mathématiques ? Pourquoi ?
Une bonne question. Donc, tout d'abord, il faut dire que en fait, l'État russe est vraiment contre les anarchistes. Il y a eu en 2018 une fameuse affaire de réseau. Les services secrets russes ont fabriqué l'affaire contre les anarchistes en disant que les anarchistes ont créé un certain réseau pour faire un coup d'État.
C'est mal connaître les anarchistes, ils ne sont pas pour les coups d'État d'abord.
Déjà. Voilà, donc pour changer le régime, voilà. disons ça. Et donc ils ont été accusés de s'entraîner dans la forêt avec les armes, etc. etc. C'était un cas complètement fabriqué, basé sur les données extractées avec les tortures. Et c'est devenu public et beaucoup de gens de vues différentes, anarchistes, pas anarchistes, gauche, pas gauche nécessairement, sont allés dans les rues pour dire que c'est pas normal. Donc déjà en 2018, on a eu l'impression que l'État est vraiment contre les anarchistes. Et en fait, quand Azat a été intimidé. Tout le monde a eu cette affaire de réseau. Je dis réseau entre guillemets, bien sûr. Ça va être une sorte de continuation de cette affaire. Et on craint toujours que les services secrets vont imaginer que Azat a été aussi partie de ce fameux réseau qui n'a en fait jamais existé. Parce que l'affaire a lié les gens qui même ne connaissaient pas l'un l'autre.
Mais les anarchistes servent de bouc émissaire encore.
Pardon ?
Oui. Je ne connais pas ce mot en russe, bouc
émissaire. C'est pas grave.
Oui, les anarchistes, en fait, sont utilisés par le régime russe pour être ceux qui vont prendre tous les coups. C'est ça, le bouc émissaire.
Ils ne sont pas les seuls, mais définitivement un de ceux, sans doute. Et aussi, les anarchistes sont torturés. Et à mon avis, le système de torture et d'intimidation est construit en utilisant les anarchistes comme un matériel de tester comment ça va marcher.
Oui.
Voilà.
Oui, puis peut-être faire peur à la population aussi, quoi.
Ouais, moi, je voudrais ajouter un élément qui est important et que, en tant que Française, j'ai découvert progressivement en me battant pour Azat, c'est qu'en fait, en 2014, lors de la première invasion de l'Ukraine par Poutine, en Crimée, au Donbass, eh bien, en fait, les anarchistes, c'est la seule force russe organisée qui dénonce cette invasion. C'est-à-dire que ce sont les seuls qui disent « non, nous sommes en désaccord ». Et c'est évident que pour le régime russe, ils posent un très gros problème. Et je suis totalement d'accord avec Alexandra, ils sont utilisés à la fois comme un test pour tester un ensemble de méthodes répressives qui passent par la torture, et en même temps, ils sont utilisés pour intimider la population. Et c'est vrai que les anarchistes ont fait les frais de la résistance à Poutine.
On est habitué. Azat, on a donc dit que c'était un jeune mathématicien. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il est brillantissime, qu'il a réussi en prison à apparemment résoudre un problème mathématique dont j'ignore le A, le B, le C, et qu'il est soutenu par une grande association internationale de mathématiciens.
C'est ça.
Ouais, en fait, même en 2020, donc pendant la première affaire d'Azat, il a réussi à publier un article dans un journal de mathématiques assez de bonne qualité. C'était un article qui a publié avec un autre auteur, donc deux auteurs, co-auteurs, disons. Et voilà, donc déjà, pendant la première affaire, il a réussi de faire de continuer de faire la science et ce qui était bien sûr contribué beaucoup à respect qui Azat a non seulement parmi les anarchistes, les opposants, les dissidents en gros en général en Russie, mais dans la communauté de MGU, de l'université d'État de Moscou Lomonossov qui a été mobilisée. On a fait une pétition, on a fait des stickers, on a fait une grande campagne en demandant notre président de l'université de parler d'Azat. Donc le président de l'université Sadovnichi n'a jamais parlé d'Azat malheureusement, mais on a essayé de faire toute la pression possible et Mikhail Lobanov qui a été un professeur de mathématiques à l'époque et c'est lui aussi le cofondateur de syndicat à qui Azat a adressé première fois quand il a compris qu'il y aura des problèmes. Mikhail Lobanov a contribué aussi beaucoup à rassembler la communauté syndicaliste des opposants et des scientifiques, tous les trois ensemble pour se battre pour la liberté d'Azat.
Alors, comme tu disais, qu'on lui reprochait à tort d'avoir voulu préparer un attentat avec une bombe, c'est l'essentiel de ce qui lui est reproché.
Ils ont essayé de lui rapprocher de ça, ils ont essayé de lui torturer pour qu'il confirme cette hypothèse, mais Azat n'est pas uniquement quelqu'un de talent mathématique exceptionnel, c'est quelqu'un d'esprit exceptionnel et on verra ça plus tard encore une fois. Et donc il a subi les tortures, mais il a refusé de dire un mot contre lui-même ni un mot contre ses amis, ses camarades. Donc et à part des mots, il n'y avait pas des évidences parce que c'était une affaire complètement fabriquée. Donc finalement, ils lui ont rapproché de casser la vitrine, la fenêtre de l'office de parti de Poutine qui s'appelle la Russie Unie.
Oui, c'est son parti, oui. Ouais.
Et donc pour la fenêtre cassée, même pas prouvé non plus, parce que la seule preuve était les mots d'un autre personne. C'était la seule évidence que quelqu'un a vu Azat pendant la nuit, à minuit, en cassant la fenêtre. Et donc, pour la fenêtre, il a reçu 6 ans de prison.
Cher payé.
Donc, fenêtre qu'il a toujours nié avoir cassée. Et ça, c'était sa première affaire. Alors, il y a une façon de compter le temps en prison en Russie qui fait que, comme il avait fait de la détention provisoire, ça compte 1 jour et demi. Bon, voilà. Donc, il n'a pas fait 6 ans, il a fait 4 ans. Il devait donc être libéré en septembre 2023. Et là, une semaine avant sa libération. Donc nous, on s'apprêtait, Solidarité Free Azat avait organisé un rassemblement international pour Azat. Alexandra y a participé, elle était à ce moment-là en Arménie, nous on l'a fait à Paris, il y avait à Berlin, à Vilnius, en Pologne. Et une semaine avant la libération d'Azat, les services de sécurité russes fabriquent une nouvelle affaire contre Azat.
Принципы взаимного гнева. Мир постепенно становится злей. Против бесполезных конфликтов сплотиться бы стоило, но толпы людей теряют себя в обидах своих заблуждений, стараясь добиться с кем-то единства, теряясь во власти минутных влечений, расправив незримое знамя цинизма. Не дает покоя теория зла. Так просто в темноте друг друга потерять. Но вместо поиска себя мы ждем, когда нам прокричат с трибун команду взять.
Америка, Китай, Украина — всего лишь кусочки огромного мира. Мира, который не хочет войны. Пусть страны разные, но люди одни. Не дает покоя теория зла. Так просто в темноте друг друга потерять. Но вместо поиска себя мы ждем, когда нам прокричат с трибун команду взять.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, une émission spéciale en soutien à Azat avec les représentants du comité Free Azat, donc en anglais Liberté pour Azat. Voilà, on a évoqué le personnage d'Azat et on était en 2023 où il allait potentiellement être libéré et où les autorités russes lui intentent un nouveau procès.
C'est
alors,
ça.
Depuis, qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, donc le 2 septembre.
Ah non, la musique, qu'est-ce qui se disait, Alexandra?
Excuse-moi. Ah oui, c'était aussi antimilitariste, mais un peu plus aussi, parce qu'il parle de fait qu'on a beaucoup de pays différents, mais qu'on a juste un seul monde. Et le monde ne veut pas la guerre. Et c'est un jeu de mots, parce qu'en russe, monde et paix, c'est le même mot. Donc, quand on dit monde, on vit dans un seul monde, c'est la même chose qu'on dit on vit en, dans paix, dans la situation où il n'y a pas de guerre. Et donc la chanson parle aussi que c'est le cynicisme qui nous empêche, le cynisme, voilà, qui nous empêche à vivre sans les conflits.
Très bien. Bien, donc on revient en 2023.
Donc le 2 septembre, nous faisons notre journée internationale devant plusieurs ambassades de Russie dans le monde pour rappeler aux autorités russes que nous exigeons la libération d'Azat. Et le 4 septembre 2023, Azat sort de prison, parle 5 minutes avec sa femme et sa mère, et il est de nouveau mis dans un fourgon de police et envoyé immédiatement en détention provisoire. Une nouvelle affaire a été fabriquée. Il est en détention provisoire de septembre 2023 à mars 2024. Et en mars 2024, il est condamné pour terrorisme sur une nouvelle affaire complètement fabriquée. Mais cette fois-ci, ce qui est vraiment très grave, c'est qu'il a le statut de terroriste, ce qui permet aux autorités de l'envoyer dans une prison à régime extrêmement sévère. Et c'est ce qu'il est actuellement en train de subir.
En Sibérie, j'imagine.
Encore pire, au-delà du cercle arctique, dans une région où il fait moins 50 degrés une partie de l'année.
Bien. Espérons qu'il est résistant. Et donc, ces conditions... Alors, ce nouveau procès, j'ai entendu, là, quand il y a eu la réunion du comité de soutien à la Bourse du Travail, il y a une quinzaine de jours, là, que, en fait, il y avait des faux témoins, quoi.
Oui, c'est ça, exactement. Tu veux en parler, Alexandra?
Oui, justement, la première affaire d'Azat, c'était l'affaire de la fenêtre cassée. La deuxième affaire, c'est l'affaire de télévision regardée. Parce que, en fait, la seule chose que les services secrets ont pu imaginer, c'est d'accuser Azat que quand les prisonniers regardent la télé, ce qui est aussi obligatoire, donc en fait tu peux pas refuser de ne pas regarder la télé dans la prison russe. Donc Azat a regardé la télé. Il a vu des nouvelles sur le terrorisme, et donc il a justifié le terrorisme en parlant avec les autres que c'est bien qu'on a des terroristes, ce qui est complètement absurde, surréaliste et fou. Et en fait, à cause de ça, Azat on traite Azat comme quelqu'un qui a fait le crime dans la prison, ce qui est encore pire parce que c'est comme ça, il fait le crime pendant
incarcération.
Exactement, et donc c'est deuxième crime déjà, donc ce qui permet de lui donner tous les statuts les pires possibles.
Et je précise qu'ils ont interrogé pour incriminer Azat, ils ont interrogé donc un co-détenu d'Azat, co-détenu qui avait tout fait pour devenir très proche d'Azat, hein, donc gagner sa confiance. Ça, c'est vraiment une méthode des services russes.
Hein. Pas seulement, c'est une vieille méthode de la police. Et
on est d'accord, voilà, d'endormir la confiance, enfin d'endormir la suspicion. Et d'avoir des infiltrés, bien sûr. Et cette personne était condamnée pour viol collectif. Et il a eu une remise de peine du fait qu'il a témoigné contre Azat.
Voilà. Alors, c'est quoi les conditions d'incarcération d'Azat?
Alors, Azat a été condamné à une peine divisée en deux, c'est-à-dire 4 ans avec 2 ans et demi dans un certain type de prison, 1 an et demi dans un certain type de prison. Il vient d'achever son premier type de prison et là, il vient d'être transféré, et ça a été le choc total. Il a été transféré dans le pire endroit de Russie, l'endroit où l'opposant Alexei Navalny a été retrouvé mort, pour le dire très gentiment, c'est-à-dire une région extrêmement aride, au-delà du cercle arctique, moins 50 degrés, la connexion Internet ne fonctionne pas très bien, et par exemple, là où est Azat, il ne peut même pas faire des courriers électroniques. Ça, c'est pas ce qu'il y a de plus grave, mais c'est un endroit complètement isolé. Pour recevoir des visites de sa famille ou de sa compagne, Elena, qui est aussi sa défenseuse, elle a ce statut, donc elle a le droit normalement de le visiter, mais c'est tellement loin que c'est impossible d'y aller, c'est très cher. Donc en gros, il y a eu une décision de mettre Azat dans l'endroit le plus éloigné, le plus isolé, dans les conditions les plus arides. Et après cette nouvelle que nous avons eue autour du 20 avril, eh bien, est arrivée il y a 10 jours l'information que Azat a déjà subi des tortures.
Alors, quel type de torture ? C'est des tortures psychologiques, physiques ?
Physiques. Ligoté, frappé sur la plante des pieds.
Ouais.
Électrocuté et début de viol.
Et tout ça pour le faire avouer, j'imagine.
Alors,
même pas,
c'était pour lui dire, maintenant tu dois te soumettre à tout ce qu'on te demande de faire. Tu dois nous obéir. C'est vraiment briser sa volonté. C'est gratuit.
Et c'est un traitement spécial pour Azat ou c'est un traitement à peu près régulier dans ce genre d'endroit?
En fait, la colonie pénitentiaire à Arpe, dans la région de Arpe, est connue, a une réputation d'être une maison de torture. Il y a 3 colonies en Russie qui ont cette réputation. Et donc, là où Azat est maintenant, est l'un de ces 3. Donc, on peut dire que c'est en quelque sorte normal, habitué et tout ça. Mais on ne sait jamais. En fait, c'est très difficile d'être dans la tête des services russes secrets parce qu'on craint toujours qu'il y aura une 3e affaire, une 4e affaire, parce qu'on voit bien maintenant que l'État ne veut pas que les prisonniers politiques sortent. Et c'est tout simple. Ils veulent qu'ils restent et qu'ils deviennent oubliés.
Dans ces colonies pénitentiaires, c'est exclusivement des politiques ou est-ce que c'est aussi des droits communs ?
Ce sont surtout des droits communs. C'est ça qui est très compliqué. Là, on a appris que même dans cette prison, il y a des gens qui ont commis des attentats contre des enfants, notamment l'attentat de Beslan. Donc, Azat...
C'est quoi l'attentat de Beslan, pour mémoire ?
C'est en Tchétchénie, c'est un attentat contre une école.
Ah oui, je me rappelle, il y a eu, je sais pas, 200 morts.
Exactement.
Ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais.
Et donc Azat, il est actuellement dans une prison avec des gens qui, on va dire, les pires criminels de Russie, en fait. Il n'est pas avec des prisonniers politiques. Il y a l'idée de l'isoler de tout ça. Par ailleurs, ce qui, en fait, est insupportable, je pense, pour le régime russe, c'est que... nous continuons à permettre à Azat de discuter en dehors des murs de sa prison, parce que nous organisons des campagnes de lettres, ça c'est très très important, politiquement et psychologiquement, parce que ça montre que Azat n'est pas oublié. Ce que veut le régime russe, c'est que plus personne ne pense à Azat, que plus personne ne parle de lui, et c'est insupportable que nous soyons toujours en train de rappeler qui il est, ce qu'il subit, son innocence. On lui envoie des lettres, donc Azat n'est pas seul. Et alors, je pense que ce qui a fait exploser le régime, c'est que très récemment, Azat a résolu en prison un problème de mathématiques encore non résolu. Donc Azat arrive même à être en communication avec la communauté mathématique à l'étranger, ce que beaucoup de mathématiciens russes ne font plus, en fait. Donc en fait, Azat n'est pas oublié, n'est pas isolé. Et ça, c'est insupportable pour le régime.
Amnesty International s'est un peu bougé, parce que souvent, sur les procès, les prisonniers politiques, Amnesty fait des choses.
Ils ont déjà fait une déclaration sur leur site et j'espère qu'ils vont faire plus de choses. Mais comme c'est une grande organisation avec leurs procédures, bureaucratie, tout ça, donc ça va prendre du temps, définitivement. Mais déjà, il y en a cette déclaration, donc ils ont déjà au courant.
Ouais, parce que ce que je vous disais hors antenne tout à l'heure, c'est qu'on a un camarade qui avait été emprisonné sous Brejnev pour avoir constitué un syndicat libre, qui s'appelait le SMOT, et Sacha avait été sorti des prisons soviétiques à l'époque, j'imagine, par Amnesty International, quoi, dans la mesure où il n'avait pas commis de crime de sang, puisque c'est la règle à Amnesty, ils ne sortent les prisonniers politiques qui n'ont pas les mains tâché.
Ce qui me gêne, c'est qu'il y a une certaine concurrence, pas du tout normale, parmi les prisonniers politiques. Chacun essaie de dire que notre prisonnier politique est beaucoup plus important que les autres, que le vôtre. Et surtout en 2024, quand il y a eu cet échange fameux des prisonniers politiques, quand 16 prisonniers politiques russes ont été libérés. Les autres ont resté en Russie en disant que c'est bien quand même que 16 ont été libérés, mais il reste plus de 1000 personnes déjà toujours en prison. Et c'est pas normal. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans l'idée de solidarité Free Azad. C'est qu'on dit un cas, une cause. C'est pas uniquement Azad qui est notre prisonnier politique. C'est en parlant d'Azad, on essaie de parler de ce problème en général et de dire que en fait c'est le changement de régime qu'il nous faut. Il n'y a pas d'autre solution, malheureusement. 16 000 des Ukrainiens civils sont au moins 16 000 sont en prison russe. 11 000 des prisonniers politiques sont là. Il n'y a pas de solution d'échange des avions, des amnisties internationales qui va sauver un seul prisonnier politique. Même, bien sûr, sauver un seul prisonnier politique, c'est beaucoup, c'est un rêve. Mais c'est aussi important de tenir dans nos têtes, c'est que ce que c'est justement le changement de régime de Poutine qui va vraiment sauver ces gens.
Федеральная свора бездушных майоров Севастополь, Донецк и Луганск Это точно пройдет Это точно пройдет Пакетом мокрым на голове С электрометками на руке Моя Россия сидит в тюрьме Но верь же мне Это пройдет Какой же черный нам выбыл век А мне мерещится вдалеке Твой надежды забытый свет Так верь же мне Это точно пройдет Это свастика русского мира Это боль в украинских глазах Срок для честных ребят Из Пензы и Питера На виды детьми автозак Из ящика в ручей нечисть 228 шмон в 5 утра Оккупант, что насилует плачущих женщин, как декабрь, январь и февраль, точно пройдет. Это точно пройдет. С пакетом мокрым на голове, с электрометками на руке. Моя Россия сидит в тюрьме, но верь же мне, это пройдет. Какой же черный нам выбыл век, а мне мерещится вдалеке. Твой надежды, забытый свет, так верь же мне, это точно пройдет. Все пройдет, все проходит когда-то. Будет год, будет день, будет миг. В одиночестве, в моде, вчерашний диктатор. А теперь просто вдруг не стоит. Из петель свету двери у Лефортова И Россия воспрянет от сна Полозийским и сердцем собранным бортом Твою любимую из пушку ворвется весна Это точно пройдет Пакетом мокрым на голове С электрометками на руке Моя Россия сидит в тюрьме Но прежде мне Это пройдет Какой же черный нам выбыл век Мне мерещится вдалеке Живой надежды забытый свет Верь же мне Это точно пройдет, друзья!
Radio Libertaire 89.4, une émission spéciale Free Azad. Et Alexandra, c'est toi qui as choisi cette musique. Alors, que dit-elle?
Ça va passer. Donc la chanson parle d'une manière très directe des tortures des occupants russes qui ont violé les femmes dans les territoires ukrainiens. De manière très directe, il parle des électrochocs utilisés contre les opposants par la police et d'autres formes de torture. Donc c'est une chanson extrêmement directe et il y a cet côté optimiste parce que Nikita Kotlerov, le leader de groupe Pornofilmy, répète, ça va passer sans doute.
Ouais. Hein, sachant que tous ces musiciens sont des musiciens plus ou moins clandestins ou dans des petits lieux pas très connus.
Bah, si, Pornofilmy, c'est connu. Donc, c'est un groupe très, très, très connu qui, à mon avis, peut rassembler pas mal de gens autour de leur concert.
Ok.
Oui, non, c'était juste pour préciser par rapport à ta question. Là, la musique qu'on vient d'écouter, c'est un groupe connu. Les deux musiques précédentes, là, ce sont des petits groupes clandestins très écoutés par les anarchistes russes.
Bien. On va continuer l'émission, puis la terminer là-dessus. C'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, alors, ici, éventuellement en Russie, pour soutenir Azat et éventuellement les autres prisonniers politiques, quoi.
Donc, nous, dans Solidarité Free Azat, notre ligne, c'est faire connaître partout la cause d'Azat. On prend une personne, comme l'a très bien expliqué Alexandra, sur le principe un cas, une cause, parce que des personnes en prison en Russie, il y en a des milliers, donc on ne peut pas faire connaître des milliers de personnes partout. On prend une personne qui symbolise toute la cause. Quand on a su que Azat était transféré donc dans cette colonie horrible, et d'autant plus maintenant qu'on sait qu'il y subit des tortures, nous avons décidé là de faire pendant 6 mois une campagne internationale. Donc nous essayons partout, on a des relais dans plusieurs pays, on essaye de faire parler d'Azat, de faire connaître sa cause. On a commencé par une pétition, un appel, une motion qui a été signée par différentes organisations, dont les relations extérieures de la Fédération. Les relations internationales, de la Fédération anarchiste. Cette pétition, elle a aussi été signée par un gros syndicat brésilien, par la CGT espagnole, par un syndicat au Cameroun, par un syndicat au Bénin. En France, elle est signée par la Ligue des droits de l'homme. On parle d'une union départementale de forces ouvrières. Je ne cite que quelques exemples. Et ça, pour nous, c'est très important de rassembler des organisations dans le monde autour d'une motion pour la libération d'Azat. Alors ça, c'est une première chose. Nous allons continuer à organiser des envois de lettres à Azat. Lui envoyer des lettres est devenu beaucoup plus compliqué, mais on peut y arriver quand même. Avant, on faisait ça de façon électronique. Il existe un système d'envoi mail dans les prisons russes, mais là où se trouve désormais Azat, il est coupé de cette possibilité de recevoir des lettres comme ça. Donc, il n'y a que les courriers postaux.
Tu vas nous donner l'adresse.
Donc on va... En fait, on passe par sa femme pour faire ça, parce qu'elle fait ça depuis la Russie. C'est plus simple. Nous, on collecte les lettres. Et ce qui est certain, c'est que toutes les lettres que nous recevons, nous les envoyons à Azat. Donc, normalement, il les reçoit. Donc, que chaque personne sache que s'il veut écrire à Azat, sa lettre sera reçue par Azat. Nous traduisons les lettres en russe parce qu'il est interdit dans les prisons russes d'écrire une autre langue que le russe, car le censeur de la prison doit pouvoir vérifier chaque lettre.
Ah oui, bien sûr.
Voilà.
En fait, il y a des choses qui peuvent être faites à partir de l'étranger. Et il y a des choses qui peuvent être faites uniquement si vous êtes situé en Russie. Et c'est comme ça l'internationalisme va marcher aujourd'hui. Donc on va utiliser toutes les possibilités. Par exemple, maintenant il y a une campagne des droits de l'homme d'une organisation de droits de l'homme qui s'appelle OVD Info, d'écrire les plaintes de manière massive pour alerter les services que c'est ce qui se passe, c'est pas normal. Vous allez moquer peut-être comment on va planter au service secret sur les actions de service secret. Quand même, ça marche. Le système n'est pas tellement unifié. On peut jouer sur leurs différences et de temps en temps, ça va donner les résultats. Donc maintenant, tous les gens qui sont en Russie vont écrire ces plaintes, vont écrire les lettres aussi. Et surtout, ils vont faire les dons. Ils vont envoyer l'argent à Elena en principe. Et c'est quelque chose qu'on peut faire de l'étranger. Parce que envoyer un avocat, ça coûte chaque fois de payer à voyage et à ce avocat. Maintenant, après la compagnie, Elena a écrit qu'elle a reçu l'argent suffisamment pour 20 visites de l'avocat. Donc, pour 20 visites, ça va. Mais après, il faut une 20 première visite aussi.
Ouais. Alors, peut-être que vous pourriez donner des adresses Internet ou des adresses postales.
Alors, nous, c'est vrai qu'à Solidarité Friazat, on coordonne la campagne de lettres. C'est très compliqué d'écrire aujourd'hui depuis la France dans une prison russe. Mmh. Donc nous, la proposition que nous faisons, c'est que les courriers nous soient envoyés. On accuse réception, hein, bien évidemment. On les traduit en russe et on les fait envoyer de façon postale dans la prison d'Azat. Alors, je peux donner l'adresse?
Ah, bien sûr, il faut que tu donnes l'adresse.
Alors, Liberté pour Azat, tout attaché et sans accent, @gmail.com.
Voilà, donc répète, parce que
liberté,
le temps que les gens prennent un stylo.
Bien sûr. Liberté pour Azat, tout attaché, sans accent, sans majuscule, @gmail.com.
Donc Google va aider à la libération d'Azat.
Tout à fait.
Merci.
Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Voilà. Et tu disais aussi que Elena, pour se déplacer, ou l'avocat, pour aller dans vers ce cercle polaire, avait besoin d'argent. Et vous collectez un petit peu aussi ou pas? Alors comment pouvoir vous faire un don si on le souhaite?
En fait, de la même façon, il faut juste nous écrire un mail et on donne le lien sur lequel on reçoit l'argent, un lien français de collecte d'argent. Voilà.
D'accord.
On fait suivre après. Voilà.
Okay. Et alors, les prochaines séances du comité, là, qu'est-ce que vous avez imaginé pour continuer à faire cette popularisation?
Alors,
de la libération nécessaire d'Azat et des autres?
Il y a un élément dont je n'ai pas parlé et je vais en parler dans les quelques minutes qui nous restent. Là, le comité s'était énormément mobilisé sur une très grosse action que nous avons faite le 20 septembre dernier, qui était de nouveau une journée internationale pour Azat avec un très gros rassemblement devant l'ambassade de Russie. Et pour la première fois, nous avons mobilisé des artistes en demandant à des artistes de faire une création pour Azat. Et ce jour-là, nous avons fait jouer dans 7 pays du monde des fragments d'une pièce de théâtre écrite par une dramaturge russe opposée à la guerre. Et nous en avons fait...
On va peut-être donner son nom.
Oui, elle s'appelle Esther Boll. Et elle a fait une pièce de théâtre d'opposition à la guerre et sur les prisonniers politiques. Et 7 acteurs dans le monde ont joué un fragment de sa pièce de théâtre sous la forme d'une performance. Et nous en avons fait un film. Et c'est un film qui n'est pas directement sur Azat, mais avec des morceaux, enfin voilà, il y a des extraits qui montrent des images d'Azat et qui montrent des extraits de nos campagnes sur Azat. Et ça, pour nous, c'est aussi un point très important dans la campagne parce que ça souligne l'aspect international du soutien qu'Azat reçoit. Donc ce film, on l'a appelé du nom simplement de notre manifestation du 20 septembre. Donc c'est Art Protest September 20. Désolé que ce soit en anglais, mais étant donné qu'on avait des acteurs anglophones, on a décidé de faire ça en anglais. Et donc, ce film, pour nous, ce serait très important de le diffuser, parce qu'il est très marquant et qu'il donne envie, il fait comprendre qu'il est nécessaire de s'engager.
Et on peut le trouver sur Vimeo ?
Alors, pour le moment, non. Pour le moment, j'ai pas voulu le faire circuler, donc je le fais circuler que d'un point de vue individuel. Et on est en train de réfléchir à la façon dont on va le mettre sur une plateforme pour le diffuser.
Voilà. Et donc, si on veut recevoir ce film, pareil, même adresse que tout
exactement.
À l'heure.
Exactement. Liberté pour Azat, sans accent, sans majuscule, tout attaché, @gmail.com.
Voilà, donc pour les courriers, pour les dons et éventuellement...
Et pour recevoir le film.
Merci à vous et puis on en recordera probablement bientôt.
Merci.
Merci.
Кмелил солдат.
Alors.
Слеза катилась, играл трофейный патефон. И на груди его светилась медаль за город Вашингтон. Допил солдат, поправил каску, достал... Затвором ствол в патрон, еще освобождать Аляску, и раздавил ногой айфон.
Так много слов, так много оправданий, да отъебитесь вы, и так меня уже достали. А в новостях опять политика реформы. И то, что вызывало ужас, снова стало нормой. Скольким нужно умереть, чтобы стало ясно, что побеждает на войне не тот, кто в ней сражался. Но все равно так много тех, кто чьей-то кровью проливает свой успех. Гибели машину, жизнь идет по кругу. Мы найдем причину, чтобы кровь пролить, совершить убийство, причинить друг другу боль в душе, оставшись чистыми. Не остановить гибели машину, жизнь идет по кругу. Мы найдем причину, чтобы кровь пролить, совершить убийство, причинить друг другу боль в душе, оставшись чистыми. Нападал, я лишь оборонялся. Да он страну предал, которой он служить поклялся. Да он сам виноват, что был настолько слабым. Я о комедии мечтал, а получилась драма. Гибели машину, жизнь идет по кругу. Мы найдем причину, чтобы кровь пролить, совершить убийство, причинить друг другу боль в душе, оставшись чистыми.
Мир идет по пути непонятных причин. Каждый сам за себя, ты по сути один, как и все в этом мире. На грани порядка от причины убить отделять. Лишь пьянка тебе лучше держать у себя на примете. Меж катушек слетел, никто не заметил, что неделю назад. Вечность, как давно мы утратили свою человечность.